Rencontre avec nos évêques, avec Monseigneur Jean-Louis Balsa, archevêque d'Albi.
Monseigneur Balsa, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve après une semaine bien remplie, hein, depuis que vous êtes arrivé. Les rencontres sont nombreuses, hein, avec finalement les prêtres du diocèse d'Albi, également les responsables de la catéchèse, et puis les jeunes aussi qui sont partis au JMJ cet été. Ils se rassemblaient le week-end dernier.
Oui, alors le week-end dernier, le samedi dernier, il y avait deux grandes, belles rencontres ici à Albi. Il y avait d'une part donc les responsables de la catéchèse du diocèse, tous ceux qui font de la catéchèse, c'est-à-dire que la transition de la foi, et effectivement les jeunes qui des JMJ qui se sont retrouvés depuis les JMJ pour à la fois faire la fête, se réjouir. Ils ont fait des clips superbes au niveau image. Et donc, c'était un beau moment. Alors, en catéchèse, beau débat. Bon, j'ai pu voir d'ailleurs ce qui se fait dans le diocèse. Il y a beaucoup de gens très, très motivés et qui essayent des choses nouvelles. Et de plus en plus, d'ailleurs, avec les parents. Ils essayent à faire avec les parents, puis sur des temps un peu plus longs. Et puis, la question qui est venue petit à petit, c'est de mieux connaître Jésus-Christ quand on veut le transmettre. Et là, il y a sûrement quelque chose au niveau de formation, mais pas d'abord proposer une formation, parce qu'il y en a beaucoup qui sont proposés, mais peu y répondent. Alors moi, vraiment, j'encourage tous les chrétiens qui transmettent la foi, qui ont envie de la transmettre déjà, les grands-parents, leurs petits-enfants, les parents, leurs enfants ou des jeunes entre eux, et puis encore plus les catéchistes, de se former pour mieux connaître qui est Jésus-Christ. Parce que là, on a quand même un gros déficit au niveau de la rencontre du Christ et de savoir qui il est vraiment. Et pour en parler, ben, faut savoir qui il est. Et donc, voilà, je fais un petit test à ceux qui nous écoutent. Peut-être n'hésitez pas, sans regarder vos évangiles tout de suite, demandez-vous comment commence l'évangile des noces de Cana. Quelles sont les premières phrases? Voilà, je ne vous dis pas, mais demandez-vous. Donc, marquez-le sur un papier. Et puis, dans quelques instants, après l'émission, vous irez voir dans votre évangile, les noces de Cana, c'est au début de l'évangile. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez écrit? Et même plus que le commencement, faites le test, écrivez entièrement les noces de Cana. Imaginez que nous avions une centrale nucléaire qui a sauté dans le Tarn, Dieu merci, ce n'est pas le cas, et que du coup, il n'y ait plus un seul livre, une seule Bible, mais qu'il n'y ait que nous qui sommes vivants, et donc ceux qui nous écoutent, là on se parle par la radio, puisqu'on est empêché par les radiations, écrivez l'évangile des noces de Cana, et ensuite comparez avec l'évangile lui-même. J'espère qu'il n'y aura pas trop de différence. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut qu'on fasse un effort gigantesque, tous les chrétiens, à tous les niveaux, sur la connaissance de Jésus, la rencontre de Jésus, comme une personne et non pas comme un texte qu'on va lire comme ça, ou quelques idées vagues, encore pire, qu'on aurait sur lui.
Et là justement, quand vous partez à la rencontre des acteurs de terrain, on sent que vous leur posez des questions concrètes sur la transmission de la foi, comment ça se passe, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les méthodes employées?
Alors les questions, oui, parce que les réponses, elles peuvent être données que par les chrétiens eux-mêmes. Donc par contre, il faut qu'on arrive à se poser quand même des questions. Et souvent, les questions qu'on peut poser tout haut, beaucoup les pensent tout bas. Donc ça vaut vraiment la peine de la période où on est moins de chrétiens dans l'Église. Mais par contre, les chrétiens qui sont là sont des gens solides. Ils sont en train de traverser, nous sommes en train de traverser les tempêtes, la remise en cause de beaucoup de choses, y compris de la foi chrétienne. Mais du coup, là, je suis très optimiste parce que c'est là qu'il faut que concrètement on se pose des questions et notre rapport concret à Jésus. Parce que sinon, ça risque d'être toujours une routine qu'on fait depuis 2000 ans. Puis dans 2000 ans, on le fera encore. Mais aujourd'hui, notre petit nombre donne la chance de pouvoir aller au cœur même de la foi chrétienne et à Jésus, et à donc revenir à Jésus. Mais il faut le connaître, et pour le connaître, il faut le fréquenter. Pour le fréquenter, eh bien, il faut ouvrir la parole de Dieu, le faire avec d'autres chrétiens, et aller à la messe. Voilà, c'est fondamental pour rencontrer Jésus. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle.
En tout cas, là, vous venez de lancer une invitation à nos auditeurs. Peut-être qu'on leur proposera assez régulièrement de réécrire une page d'évangile sans l'avoir lue juste avant.
C'est ça, on donnera des prix de catéchisme autrefois. Moi, j'avais eu le troisième accessit, imaginez déjà comme j'étais pas... Mais ça vaut le coup, même entre catéchisme et puis même en famille. Tiens, si on a une famille chrétienne, de dire, tiens, après le repas ou avant le repas, on va faire un petit test entre nous, et on va prendre la Samaritaine, on va prendre les noces de Cana, on va prendre la rive des apôtres au tombeau, on écrit le texte, et on voit ensuite les écarts ou les mêmes choses, qu'est-ce qui est sorti.
Monseigneur Balsa, cette semaine est chargée par l'actualité internationale, nationale, et peut-être que parfois cette actualité peut occulter un débat aussi qui est un débat de société sur lesquels nos parlementaires sont en train de travailler. Ce sont les questions de fin de vie. Et pour rester éveillé, vous avez donné une conférence de presse ce vendredi informer les Tarnais sur le positionnement de l'Église sur les questions de fin de vie.
Alors, effectivement, le débat risque d'être occulté, et il risque pas y avoir de débat, pour deux raisons, parce que d'abord, il y a l'actualité internationale qui est prenante et qui prend la tête de tout le monde, et puis c'est dramatique, c'est ce qui se passe en Israël, mais ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, dans le monde entier, ça craque de tous les côtés. Et du coup, nous, on a aussi des craquements de société française, donc vers quoi va la société française, et en particulier la question de la fin de vie, effectivement. Et ce débat risque d'être occulté donc par tous ces grands événements, et pourtant c'est une question qui concerne vraiment chaque individu en France. Là, vraiment, chaque individu est concerné, pour lui-même d'abord, puisque aucun de nous est immortel, donc forcément on sera tous un jour confrontés à sa propre mort, qui n'appartient à personne d'autre parce qu'elle est unique. C'est le seul événement dont on est sûr, absolument certain dans notre vie, c'est qu'on va mourir. Voilà, tout le reste est hypothétique, possible. Bon. Donc on est concerné, puis on est concerné par la mort de notre entourage, aussi de nos proches, en particulier de nos parents, ou de nos enfants, ou de nos frères et sœurs, ou de nos amis. Et donc c'est une question qui est fondamentale. Et comment une société va gérer ça ? Parce que les individus font ce qu'ils peuvent, mais vers quoi ? Et actuellement, effectivement, il y a un débat qui risque d'aller vers la légalisation, entre guillemets, de l'euthanasie. Euthanasie en grec, ça veut dire la bonne mort. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne mort que se donner la mort ou demander qu'on nous la donne ? Et quand on est chrétien, la réflexion, c'est faire ce qu'a fait Jésus. C'est sûrement pas provoquer la mort et la donner à quelqu'un. Et donc, à partir de là, il y a une vraie réflexion sur le fait qu'à la fois le corps scientifique permet beaucoup de choses, mais aussi permet qu'il y ait des soins palliatifs et que une des solutions à vivre, c'est justement de pouvoir avoir des soins palliatifs. Et il y en a trop peu en France, mais c'est la solution qui vaut vraiment la peine parce que ça permet aux gens de vivre et de mourir dignement avec leur entourage et entouré de spécialistes qui, eux, sont consacrés à ça. Et là, on a vraiment un trésor, là. Mais il faudrait le développer de plus en plus. En tout cas, se donner la mort, c'est pas une solution à la mort. De toute façon, la mort, elle viendra. C'est plutôt le problème de la souffrance qui est posé, souffrance de la personne. Et je comprends que personne n'ait envie de souffrir. Et elle sert à rien, la souffrance. Et en même temps, la souffrance de ceux qui entourent, qui n'ont pas la même souffrance que le mourant, mais souffrent de voir le mourant mourir. Et ça, c'est pas en éliminant le mourant qu'on règle la question de la souffrance qu'on a de voir partir quelqu'un ou de voir souffrir quelqu'un. Donc, du coup, il y avait la loi dite de Leonetti, qui est maire d'Antibes, que j'ai bien connue, qui avait bien posé la question et était votée à l'unanimité. À l'Assemblée nationale, maintenant, ça fait pas mal d'années. Maintenant, on revient là-dessus parce qu'il y a une pression énorme de ceux qui demandent une euthanasie active et une légalisation là-dessus. Et la nouveauté, c'est pourquoi légaliser cela alors que la société pourrait accompagner de manière fraternelle tous ceux qui sont en train de mourir. Et on a les moyens médicaux de le faire aujourd'hui, les soins palliatifs. Il y a la possibilité de ne pas s'acharner, mais en même temps de la sédation, ce qu'on appelle, qui permet de ne pas souffrir, d'être endormi, mais pas pour mourir, pour vivre mieux jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu tout ça, donc on réfléchit.
Si je résume les propos que vous avez tenus devant la presse du Tarn, vous avez dit « l'Église est pour la vie, mais pas pour la souffrance ».
Exactement. Souffrance n'amène rien. La souffrance, c'est une conséquence d'une dégradation de quelque chose qui ne marche pas. Donc la souffrance, elle est le signe de quelque chose qui ne va pas. Mais donc, on peut la traiter en tant que telle. Mais ce qui ne va pas, c'est justement un processus qui nous amène vers une dégradation inéluctable de nous-mêmes. Donc de précipiter la mort ou de la décider n'est pas la solution à la mort elle-même. Et ni encore moins à la vie. Voilà, donc du coup, là, je répète, là, il faut que vraiment on pousse à la possibilité de soins palliatifs, soit dans des institutions particulières, parce qu'elles sont risquées, soit carrément à la maison. C'est possible, moi j'ai vécu avec ma maman, il est possible de le faire, c'est pas facile, mais c'est possible. En tout cas, ça fait aller tout le monde dignement jusqu'à la fin d'une vie, et même si c'est dur, mais de toute façon, c'est inéluctable et on peut vivre autrement jusqu'à la mort qu'en se donnant la mort.
Alors l'Église est consultée hein, pour les travaux parlementaires, elle donne son point de vue, peut-être qu'elle fait des propositions aussi justement pour que les dispositifs de soins palliatifs soient développés.
Oui, alors on est consulté, c'est intéressant que le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat font des commissions thématiques et donc font des auditions de groupes de pensée en France dont l'Église fait partie. Pour nous, c'est surtout Mgr Dornelas, qui est l'archevêque de Rennes, qui est très spécialisé dans les questions éthiques et médicales, et donc qui intervient avec des spécialistes au nom de l'Église catholique, et qui va assez au fond dans les questions philosophiques que ça pose, morales, éthiques, et donc est auditionné par les députés et les sénateurs. Après, il y a le niveau politique, qui est un autre problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un gouvernement pense devoir faire. Alors, c'est toute la question, c'est soit pour accompagner des courants de pensée qui vont être choisis par rapport à d'autres courants de pensée, mais pourquoi cela ? Et puis, par rapport aux élections aussi. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi... c'est donc pas la majorité de la population, mais qu'est-ce qui fait que votre majorité va vous élire parce que vous êtes plus ou moins pour ou contre l'euthanasie, etc. Donc, c'est cet autre niveau qui, lui, est moins de la réflexion que aussi de décision d'opportunité électorale. Même si ce sont des questions profondes, à un moment donné, on risque effectivement que les carottes soient déjà cuites.
Vous avez parlé aussi lors de cette conférence de presse des directives anticipées, en mettant l'accent sur le fait qu'on écrit ces directives anticipées quand on est bien portant et que peut-être qu'on n'a pas le même positionnement face à sa propre fin de vie quand on est en bonne santé et le jour où on est vraiment sur son lit de mort.
Oui, parce que c'est important quand même de dire des choses générales quand même. L'Église ne veut pas dire il faut s'acharner à tout prix pour vivre, donc de demander qu'il n'y ait pas un acharnement thérapeutique pour reculer de manière dérisoire l'échéance. De pouvoir dire... Après, quand on arrive vers la fin de la vie, souvent, la famille réintervient, parce que quand vous faites des directives, globalement, vous êtes seul à les faire par rapport à vous-même. Mais là, rentre en jeu la famille, rentre en jeu aussi peut-être des conflits de famille autour de vous, qui ne veulent pas nécessairement votre vie, ou au contraire, qui souhaitent que vous continuiez à vivre. Donc, il y a ces éléments-là. On peut rêver des familles idéales, hein, il y en a des familles idéales. Et puis, il y a le corps médical aussi qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire lui qui gère de la maladie. Voilà, mais avec des gros progrès qui font que aujourd'hui, le corps médical, sa dignité, c'est qu'il prend en compte vraiment la personne. Donc tout ça interfère, et c'est pas sûr qu'au moment où vous avez fait vos directions anticipées, vous ayez le même état de pensée au moment où vous êtes en train de mourir. Sauf que vous n'êtes plus en état de pouvoir décider, nécessairement. Donc voilà, il y a une prudence là à avoir, et puis une fois de plus, à espérer qu'on soit pris en charge un jour de manière palliative. Qu'on ne souffre pas et qu'on nous accompagne dignement, qu'on nous tienne la main jusqu'au bout. Quand il n'y a plus la parole, qu'on puisse. Les soignants le savent bien, caresser une main, caresser un bras, embrasser, mais qu'on aille au bout d'une vie avec des moyens qui font que les soins palliatifs permettent de gérer la souffrance, voire d'ailleurs de ne plus la subir. Il y a donc cette sédation possible qui permet de dissocier la souffrance de l'achèvement de la vie. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et les directives anticipées, faut pas trop anticiper, parce qu'on anticipe quelque chose qui n'a pas lieu d'être maintenant. Mais qui est de l'ordre de la peur quand même, ou qui est de l'ordre... Alors, ça peut être avoir aussi de l'ordre de la peur de souffrir, la peur d'être malade, la peur de... Bon.
Monsieur Balsa, il y a des personnes qui sont en fin de vie, qui vous écoutent peut-être à l'hôpital ou chez elles en soins palliatifs. On peut parler du sacrement des malades aussi. Alors les gens font la confusion, l'extrême onction, le sacrement des malades. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, il y a quelque chose d'amusant. Il y avait un prêtre à Nice qui était malade, bien malade. Mais enfin, a priori, il n'allait pas mourir. Mais bon. Et alors on lui propose le sacrement des malades. Et la première réflexion qui dit « mais je ne suis pas mourant ». Mais justement, lui-même disait aux autres, le sacrement des malades, c'est le sacrement de la vie, c'est pas le sacrement de la mort. Et les gens, évidemment, confondent ça avec une extrême onction extrême. Une onction extrême, qui fait qu'autrefois, vraiment, c'était le dernier moment, mais toujours dans des cas où les gens sont quasiment inconscients, ils peuvent pas se confesser. Voilà. Donc non, le sacrement des malades, d'ailleurs, on peut le recevoir plusieurs fois. Et c'est un sacrement de la vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 7 sacrements dans la vie de l'Église, il y en a 7, dont le sacrement des malades. Et ça veut dire qu'en fait, il y a 7 moments où Dieu se manifeste réellement. Après, il est là, il s'intéresse à nous, mais là, il se manifeste réellement. Et il se manifeste particulièrement dans, dans la maladie. C'est-à-dire donc que dans un moment où on est ramené à soi-même et on est ramené paradoxalement à Dieu aussi. C'est-à-dire qu'au sens même de la vie, à l'essentiel, quoi. Et du coup, l'Église en a fait un sacrement parce que c'est un des lieux où on rencontre le Seigneur, on rencontre Dieu. Donc tous ceux qui m'écoutent là, n'hésitez pas à demander le sacrement des malades parce que c'est une force qui vous est donnée, non pas pour échapper à la mort, mais pour vivre de manière forte cet état de vie que vous vivez et qui fait que Dieu se rapproche prioritairement de vous dans ce sacrement. Et c'est une priorité. Il le fait à la naissance par le baptême, il le fait avec la confirmation, avec l'Esprit-Saint, il le fait dans les gens qui s'aiment, avec le mariage, il le fait dans les gens qui confessent leurs péchés, donc qui sont en état de grande faiblesse humaine, il le fait dans le sacrement de l'ordre, donc qui choisit un état de vie pour des prêtres et des évêques et des diacres, qui est le lieu privilégié de la rencontre de Dieu, et dans ce moment-là de la vie, particulièrement, c'est pas les vacances ne sont pas un sacrement, les loisirs ne sont pas un sacrement, la fraternité n'est pas un sacrement, la maladie est un sacrement. C'est pas pour magnifier la maladie, c'est que là il se passe quelque chose où on peut pas tricher, on peut plus tricher. On est face à soi-même et beaucoup de ceux qui m'écoutent comprennent. J'en suis sûr que, en fait, on se pose les questions les plus essentielles. On se révolte aussi. Le sacrement des malades, c'est fait pour se révolter. C'est pour demander à Dieu, mais pourquoi? Mais tout ça, voilà, et ça, c'est la grandeur de ce sacrement. Il faut vraiment le demander plusieurs fois. Et si, par grâce, on guérit, eh bien, ça sera jamais été du temps perdu. Dieu veut la vie.
Monseigneur Balsa, nous sommes dans le monde des vivants, nous sommes dans la vie, nous sommes dans l'espérance chrétienne finalement, et la fin de vie, la mort, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Quel est le message chrétien aussi sur la mort?
Ceux qui m'écoutent le savent bien, le message chrétien c'est la résurrection. C'est-à-dire que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. La vie terrestre, on a été créé à l'image de Dieu. Cette image, d'une certaine manière, a été altérée par le péché, mais Dieu n'a jamais renoncé, en fait, à nous sauver. Et d'ailleurs, il s'est d'ailleurs suffisamment investi, il a payé d'ailleurs très cher de lui-même, alors qu'il est tellement différent de nous, il a payé suffisamment cher de lui-même pour nous montrer qu'être un être humain, on peut le faire. Il l'a fait lui-même. Et il n'a pas triché, il a été un être humain par entière. Donc ça, c'est une espérance énorme, qu'en fait, c'est pas une erreur d'avoir été un être humain. Il n'a pas fait une erreur en créant des êtres humains. On pourrait se dire, est-ce qu'il a bien réfléchi avant de créer des êtres humains? Mais il ne s'est pas trompé. Et d'autant pas trompé qu'il a vécu lui-même notre condition humaine, avec les mêmes questions, les mêmes affronts, les mêmes joies, les mêmes souffrances. Et puis la souffrance ultime, la mort. Et en plus, la mort ignominieuse. Il n'est pas mort d'un accident de chameau en sortant de Jérusalem ou d'un mauvais rhume. Il est mort assassiné. Et donc, l'espérance, c'est d'abord que Dieu s'est approché au même endroit que ceux qui meurent. Il s'est approché là où on n'ose plus croire en Dieu aussi. Parce que quand on meurt, on peut avoir beaucoup de doutes sur l'existence de Dieu. Et donc, lui-même a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» sur la croix. Il a fait l'expérience, lui qui est Dieu, il fait l'expérience que Dieu ne répond pas à ce moment-là. Et il a gardé la foi. Et Dieu l'a ressuscité. Et le dernier mot, c'est la résurrection. Voilà, donc c'est voilà notre espérance, elle est, mais c'est pas une espérance, on verra bien après ou allez, on verra dans 3 jours, ça sera passé, un mauvais moment passé. C'est que dès maintenant, tout ce qu'on peut vivre de bien, de mal, de contradictoire ou dans la maladie, c'est le moment, le bon moment de passer de la mort à la vie. Donc on peut même le faire bien avant de mourir d'ailleurs. Après, quand on meurt, on meurt. Mais il y en a qui sont tellement morts avant de mourir, tellement morts. Voilà.
Monseigneur Balsa, merci beaucoup.
De rien. Avec plaisir. Voilà. Merci.
Rencontre avec nos évêques.